émission de Christian et Hugo. Christian et Hugo, salut. À vous l'antenne.
Bonjour. Carrefour des Résistances, une émission mensuelle sur les luttes, projets et réalisations alternatives non institutionnelles présentée par Hugo et Christian. Bonjour Hugo.
Bonjour Christian.
Aujourd'hui, nous allons parler du TAFTA, qui veut dire Transatlantic Free Trade Agreement. C'est bon en anglais, ce qui ne veut déjà rien dire pour un citoyen non anglophone. Pour sa simple raison que les citoyens lambda, anglophones ou pas, ne sont pas invités à cette négociation qui va, excusez du peu, établir un projet d'accord commercial global entre l'Union européenne et les États-Unis. Les députés européens ont donné le feu vert à la Commission européenne pour négocier en secret cet accord. Nous pensions avoir atteint les sommets du libéralisme mondial avec la mondialisation, les accords de l'OMC et la gestion calamiteuse de la crise par le FMI, entre autres. Autant d'organismes supranationaux qui gèrent déjà en partie le capitalisme planétaire depuis des années et qui ont contribué par les déréglementations du marché à la crise que nous connaissons aujourd'hui, plongeant la Grèce et l'Espagne dans la misère, l'Europe dans la précarisation progressive, grâce entre autres aux politiques d'austérité dictées par le FMI. Nous allons parler aujourd'hui du projet de zone de libre-échange transatlantique entre l'Europe et les USA, ou TAFTA, pour les intimes de la finance, qui nous promet mieux qu'une crise financière mondiale, qui nous promet rien de plus que la mainmise des multinationales sur la politique des États. Nous allons essayer de voir ce que cela va impliquer pour notre quotidien avec David Hautelin. Bonjour.
Bonsoir.
Et Christian Mercier, qui est dans les embouteillages, qui ne saurait tarder, sont membres du collectif Stop TAFTA.
C'est dur à dire.
C'est dur à dire, ouais. C'est dur à dire. Alors, je pense qu'il faut revenir sur la définition de ce traité. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus de précision ?
Alors, on va essayer d'être le plus synthétique possible. Ce traité est donc non seulement un accord commercial, ce qui en soi n'est pas forcément quelque chose de problématique, puisqu'à partir du moment où on juge nécessaire de faire du commerce, il faut définir effectivement quelles sont les règles. Mais cet accord va au-delà d'un simple accord commercial, c'est donc un accord de libre-échange. Alors, il faut prendre deux petites minutes pour expliquer très succinctement ce qu'est un accord de libre-échange. Un accord de libre-échange se fixe deux objectifs. Le premier, c'est de réduire, d'abaisser ou de supprimer ce que l'on appelle dans le jargon technocratique de nos eurocrates chéris, les barrières tarifaires. Les barrières tarifaires, ce sont les quotas et les tarifs douaniers. Ça, c'est réglé depuis très longtemps, ce genre de choses, dans ce que l'on appelle des accords de commerce internationaux. Mais là, on veut aller plus loin. C'est-à-dire qu'on veut également abaisser, réduire, voire supprimer ce que l'on appelle, dans leur jargon, les barrières non tarifaires. Alors là, une petite explication. Qu'est-ce que les barrières non tarifaires ? Les barrières non tarifaires, ce sont, pour faire très simple, les lois, les décrets, les règlements, les normes, tout ce qui touche à notre réglementation et à notre législation. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, qui sont pourtant le fruit de décisions démocratiques au fil des décennies, sont considérées par ceux qui font du commerce international comme des obstacles, des choses qui freinent, qui mettent en péril le commerce. Donc, il faut les supprimer. Donc, ces deux objectifs, suppression des barrières tarifaires et suppression des barrières non tarifaires, sont ce que recherche cet accord de libre-échange. Et pour parvenir à ces deux objectifs, le projet, le mandat de négociation qu'a reçu la Commission européenne de nos gouvernements, j'y reviendrai dans un instant, vise à mettre en place, moi, ce que j'appelle certains outils, certaines choses donc contractuelles entre les deux parties qui négocient, à savoir les États-Unis et la Commission européenne, de façon à pouvoir réaliser ces deux objectifs. Alors, je fais une petite parenthèse, effectivement, avant d'aller plus loin. Je ne l'ai pas dit en commençant. Il ne faut effectivement pas oublier que si la Commission européenne aujourd'hui négocie ce projet avec le gouvernement américain, c'est parce qu'elle en a reçu mandat des gouvernements nationaux qui composent, qui font partie de l'Union européenne. C'est-à-dire que nos gouvernements ont donné mandat à la Commission pour mener ces négociations. Il ne faut jamais oublier ça. Quand on parle de l'Europe, bien souvent, on montre l'Europe du doigt, on dit « Ouh, cette Europe, etc. etc. » Mais beaucoup de choses qui sont faites au sein de l'Europe ne sont que l'aboutissement de décisions prises par les gouvernements nationaux qui se mettent d'accord et chargent la Commission européenne de mettre en place ce qu'ils ont en eux-mêmes décidé. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vais un peu plus loin.
Oui,
dans la définition après des outils, peut-être.
Oui, voilà. Je pense que en tout cas, les outils qui sont utilisés sont vraiment problématiques.
Alors, voilà. Effectivement, bon, on ne va pas tous les énumérer, mais alors, ce qu'il faut savoir.
Les tribunaux spéciaux.
Voilà, alors entre autres celui-ci. Mais avant, je tiens à faire une petite précision. C'est vrai qu'il faut rappeler que tout ce qu'il y a dans ce projet. Parce que tu as parlé tout à l'heure, on peut se tutoyer, oui.
Oui, bien
d'accord.
Sûr.
Tu as parlé de l'OMC. Et en fait, tout ce qui est contenu dans ce projet de négociation est tiré de l'OMC. Parce qu'il faut savoir que l'OMC actuellement patine un petit peu, pour des raisons que nous n'allons pas forcément exposer ici. Mais voilà, les choses ne se font pas comme elles devraient se faire. Donc, les multinationales essayent de trouver une façon de quand même mettre en application ce qui avait été défini lors des accords de Marrakech qui avaient donné naissance à l'Organisation mondiale du commerce. Et donc, tous les outils dont nous allons parler maintenant, effectivement, sont issus de l'OMC. Donc, on sait comment ça fonctionne malgré tout parce qu'on le voit fonctionner au jour le jour, quand même dans le cadre de l'OMC qui arrive à en mettre certains en place. Alors, effectivement, il y a... Bon, le plus connu actuellement, je dirais, celui dont même les médias n'arrivent plus à faire l'impasse parce que ça soulève quand même un certain tollé, que ce soit en Allemagne ou même aux États-Unis, ça pose un problème. En Europe, partout, les gens commencent à prendre conscience de ce qu'il y a. C'est ce qu'on appelle l'organe de règlement des différends. Et comme tu l'as dit, effectivement, il s'agit d'un tribunal d'arbitrage privé qui permet à un investisseur, quel qu'il soit, d'attaquer un État ou n'importe quelle administration qui prendrait des mesures qui sont, alors dans le jargon toujours délicieux de nos eurocrates, jugées comme déraisonnables ou non raisonnables ou non nécessaires par rapport aux engagements du traité. Ce qui fait qu'effectivement, un investisseur, principalement une multinationale, peut attaquer n'importe quelle administration d'un État, donc commune, communauté de communes, département, région et État, à partir du moment où celui-ci prendrait une disposition, un décret, une loi, qu'il jugerait contraire à ses intérêts. Parce qu'en fait, la seule norme qu'il y a derrière tout cela, c'est les bénéfices escomptés par la multinationale seront-ils ou non impacté par la mesure que cette administration va prendre. À partir du moment où la multinationale estime qu'effectivement il y aurait baisse ou diminution des bénéfices escomptés, elle attaquera donc l'administration devant cet organisme. Il faut savoir que c'est un organisme complètement privé. Ceux qui rendent cette soi-disant justice sont des avocats internationaux qui sont par ailleurs eux-mêmes clients des multinationales qui les sollicitent. Et effectivement, n'importe quelle multinationale donc, pourra se saisir de ça. Alors, je le dis tout de suite, il ne s'agit pas de brandir comme ça quelque chose d'horrible qui serait une simple supputation. On sait très très bien comment ça fonctionne parce que ça c'est déjà à l'œuvre dans plusieurs endroits du monde. Il y a beaucoup d'accords comme ça qui ont été signés entre différentes parties prenantes. Et effectivement, on y reviendra je pense tout à l'heure, on citera des exemples qui montrent qu'il y a actuellement 512 affaires qui sont jugées de par le monde par ces tribunaux privés. Et effectivement, sur des motifs qui, en tant que citoyens, doivent vraiment nous interpeller et nous faire prendre conscience que ce qui est vraiment en jeu derrière tout ça, c'est notre capacité à définir des règles et des lois en fonction de critères que nous estimons importants, par exemple en matière d'environnement. Pourra-t-on prendre des décisions contraignantes quand on sait les enjeux qui sont ceux d'aujourd'hui et de l'avenir face au changement climatique? Bon, je citerai quelques exemples après, mais oui. Voilà.
Non, justement, ce serait peut-être intéressant de citer des exemples qui se sont déjà passés dans le cadre d'autres accords et qui, sur lesquels on pourra ensuite enchaîner sur le local, sur ce qui peut se passer vraiment.
Bien sûr. Alors, je pense que Christian pourra compléter.
Christian qui vient d'arriver, qui sort des embouteillages.
Je commence, tu commences ?
Vas-y.
Ouais, je commence. Alors, on peut citer un qui est assez symbolique. Bon, Philip Morris a attaqué donc l'Uruguay et l'Australie. Donc, Philip Morris, qui est un cigarettier. Parce qu'il se trouve que là-bas, une vigoureuse campagne anti-tabac a été menée, qui a conduit à une baisse de 44% de la consommation. Forcément, c'est ce que l'on appelle une mesure déraisonnable. Faire baisser la consommation de cigarettes, quel sacrilège. Donc, Philip Morris a attaqué et réclame à l'Uruguay 2 milliards de dollars. Les sommes ne sont pas petites. Et ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est quand on demande à un État de régler cette amende, c'est nous, les citoyens, via nos impôts, qui les payons. On peut citer aussi Vattenfall, qui a attaqué l'Allemagne. Parce que il se trouve, donc Vattenfall est une filiale d'une énergie suédoise qui travaille dans le domaine de l'énergie. Et il se trouve que l'Allemagne a eu la très mauvaise idée d'annoncer qu'elle sortirait du nucléaire d'ici, je crois, 2022. Et donc, elle a fermé deux centrales en 2012 dans lesquelles Vattenfall intervenait. Vattenfall a trouvé ça complètement déraisonnable, a attaqué et réclame 3,7 milliards de dollars au motif que, effectivement, c'est son investissement se trouve...
C'est voilà. des sommes énormes chaque fois qui vont impacter les économies, fatalement.
Tout à fait. Ouais. Alors, un autre exemple qui est intéressant, c'est Acmea, une société qui intervient dans le domaine de la santé. Dans ce qu'ils appellent, dans ce genre d'accord, les industries de la santé, parce qu'il faut savoir qu'évidemment, la santé est avant tout une industrie. En fait, elle a obtenu de la Slovaquie, un tout petit pays d'Europe, 22 millions d'euros. Alors pourquoi ? Il se trouve qu'à un moment donné, la Slovaquie avait privatisé la santé il y a quelques années en arrière. Et en 2006, un gouvernement a été élu sur la promesse de renationaliser la santé. Et il se trouve, chose étrange, que ce gouvernement a tenu promesse.
Ah oui, c'est étrange.
Oui, mais ça peut arriver. Des gens courageux peuvent malgré tout mener des politiques courageuses. Et donc, forcément, mesure déraisonnable. Et en fait, Acmea a donc attaqué la Slovaquie, l'État slovaque, et a obtenu 22 millions d'euros. Oui. Est-ce que j'en cite d'autres ? Parce que j'en ai comme ça beaucoup.
Allez, encore une pour se faire
pour le plaisir.
Allez. On fera une petite pause musicale après et on enchaînera peut-être sur des cas locaux.
Alors, je vous en cite une autre que je trouve aussi particulièrement intéressante parce que justement, localement, on pourrait la décliner, bien que toutes celles que j'ai citées puissent être déclinées localement. Donc, Metalclad, qui est une société américaine ou canadienne, je ne sais plus. Donc, réclame 15,6 milliards de dollars au Mexique parce que le Mexique a refusé de rouvrir une décharge de produits toxiques. Alors, je m'explique. Une ville du Mexique avait accordé une concession à Metalclad pour qu'un lieu sur leur commune serve de décharge avec des produits très toxiques, du plomb, du cadmium, des choses comme ça. Et en fait, ils se sont aperçus au bout d'un moment que ce site était sur une nappe phréatique et que forcément, il y avait des infiltrations, des écoulements qui venaient polluer la nappe phréatique. Donc la commune a refusé, a fermé cette concession, a été soutenue par l'État mexicain, qui a dit quand même que là, c'était un petit peu compliqué, mais ça aussi, c'est une mesure déraisonnable. Et donc, Metalclad réclame 15,6 milliards de dollars pour que le Mexique réouvre ce site, afin de pouvoir y entreposer tous ces produits dangereux, qui sont en gros des produits qu'ils ne veulent pas sous-traiter chez eux sur leur propre territoire, et qu'il est tellement plus facile d'envoyer sur des pays qui ont des protections moindres, et en plus on peut les attaquer quand, ouais. quand ça ne convient pas.
Ouais. Voilà, on va faire une petite pause musicale, puis on reprendra dans quelques minutes.
Pourtant ce silence a comme un balancement maudit qui vous met la pendule à l'heure. C'est le moment, c'est pas trop tôt, pour parler des troisièmes couteaux.
Troisième couteau. Bonjour, nous sommes sur Radio Système, l'émission Carrefour des Résistances. Traite aujourd'hui du traité TAFTA avec David Autelet et Christian Mercier. Alors, on parlait tout à l'heure des incidences déjà que l'on voit un petit peu partout dans le monde et en Europe liées aux outils de ce traité. Plus précisément dans la vie locale et dans la vie politique en général locale, ce traité pourrait agir sur la sécurité alimentaire, remettre en cause les acquis contre le gaz de schiste, par exemple.
Alors on a, je dirais, de nombreux exemples dans ce domaine-là. Et dans le domaine des gaz de schiste, l'exemple, je dirais, typique, c'est le fait que nous avons en France une loi qui, pour l'instant, nous protège de la fracturation hydraulique. Il est évident que dans la mesure où TAFTA est accepté et signé par les États européens, ben, cette clause, qui est une clause de sauvegarde, va être immédiatement attaquée par les grandes compagnies, Schubert et compagnie. Donc on est à la merci, à leur merci en matière environnementale. Le droit de précaution n'existe plus. Donc toutes les démarches qui ont été entreprises depuis quelques années, malheureusement pas suffisantes, mais qui sont quand même là, vont être systématiquement mises à mal. J'en prends une qui nous concerne dans la vallée du Vidourle. Il y a un gros travail qui a été fait par, je dirais, le syndicat du Vidourle, en ce sens qu'on essaie de protéger les bassins versants de l'utilisation des pesticides. Il est évident qu'une mesure comme une telle mesure va être immédiatement attaquée parce que on empêche les grandes compagnies, les grands producteurs de pesticides, de négocier tranquillement et de continuer à nous empoisonner. Quoi.
Oui.
Donc c'est en fait les raisons majeures. Localement, on va vivre ce que on imagine au plan international. Je prends un exemple. On a en région Languedoc-Roussillon, la région Languedoc-Roussillon, dans le cadre de son plan climat, a décidé de favoriser le développement des énergies renouvelables et particulièrement des renouvelables citoyennes, c'est-à-dire que les citoyens se réemparent de la production énergétique qui est un levier que nous avons à notre disposition. Sur le projet sur Aubé, par exemple, on a un projet de centrale photovoltaïque sur une ancienne décharge publique, donc sur un terrain qui est impropre à toute utilisation. Et la région Languedoc-Roussillon essaye de donner un coup de pouce au travers d'un appel à projet favorisant les projets citoyens. Ce type de projet qui consisterait à ce que l'ensemble des citoyens, en apportant 200, 300, 400, 500 euros, construisent une véritable centrale de production d'énergie, ce projet tombera à l'eau car il va à l'encontre des intérêts des grandes compagnies et particulièrement dans le domaine de l'industrie, on sait qu'elles sont particulièrement puissantes.
Oui, et ça touche de la même manière la santé, la retraite, les retraites peuvent être impactées aussi.
Moi, je dirais que le principe de la renégociation, la négociation de TAFTA, va nous amener la législation des pays les moins de 10 ans. C'est-à-dire que là où on n'aura pas de protection, on demandera à tout le monde de s'aligner sur le pays qui n'a pas de protection. Et déjà que nos systèmes sociaux sont mis à mal depuis quelques années, c'est l'accélération de ce phénomène. En fait, TAFTA, c'est le cheval de Troie pour encore plus de libéralisme, encore plus d'attaques contre les bas revenus, contre la protection sociale, effectivement.
Ouais. La sécurité alimentaire aussi.
Je dirais que la sécurité alimentaire, on en parle beaucoup. Je dirais que la France a démarré au travers de programmes de relocalisation, le développement de produits bio, etc., dont on sait qu'ils ont un impact direct sur la santé des populations. Ce type de projet va être immédiatement attaqué par les multinationales, tout simplement parce que on va à l'encontre de leurs intérêts et qu'aux États-Unis, on n'a rien à cirer. L'important, c'est que les grainetiers, les semenciers, les vendeurs de pesticides, qui sont quelquefois les mêmes du reste, soient aux commandes.
Oui. Ça fait peur tout ce que tu nous racontes.
Ça fait peur. Ce qu'il faut, c'est un stade encore plus avancé que celui que nous avons vécu depuis une dizaine d'années. Ce qu'il faut quand même, l'intégration de tous ces éléments arrive par le fait que on nous vend ça et ça va être, l'argument choc de nos dirigeants comme la panacée à la création d'emplois. Donc on va nous vendre TAFTA en nous disant, vous rendez compte, on va gagner 0,1 point ou 0,2 point ou 0,3 point de croissance. Ça va nous amener à la création de centaines de milliers d'emplois. Alors là, on peut rigoler doucement parce qu'on a des exemples sur lesquels on peut s'appuyer. Si on prend l'accord entre, le gouvernement américain et le Mexique, Barack Obama avait annoncé que ça allait créer quelque chose comme 2 millions d'emplois, un chiffre extraordinaire. Or, aujourd'hui, quand on en fait la comptabilité, on a perdu 900 000 emplois aux États-Unis en face de la mise en place de ce traité. Et il en est de même côté mexicain. puisque les multinationales de l'agroalimentaire ont fait main basse sur la production agricole au Mexique et on a fait disparaître des centaines de milliers d'emplois dans le domaine de l'agriculture nourricière, des gens qui arrivaient à vivre de leur culture et qui aujourd'hui sont condamnés à aller grossir les rangs des chômeurs dans les villes.
Oui. Et les perspectives de lutte contre ce traité, comment ça s'organise, qu'est-ce qui se passe?
Alors, je dirais on est un peu dans un phénomène qui me rappelle en quelque part soit la lutte contre les gaz de schiste, mais aussi la lutte contre le projet de le projet européen de
2005.
Voilà. De 2005. On a un phénomène à peu près comparable. J'entends par là, c'est le développement de la mobilisation se fait dans un premier temps au travers de l'information. Parce que, bon, comme ça a été dit tout à l'heure, ce qui est vraiment caractéristique dans ce projet, c'est que surtout, il ne fallait pas que les populations soient au courant, voilà, et qu'elles puissent décrypter ce qui était en train de se passer dans leur dos. Donc je dirais que le premier travail que font les gens qui se mobilisent contre ce projet, c'est d'abord d'informer. Parce qu'effectivement, quand on est informé, ben, on sait ce qui nous attend et ce qui va nous arriver. Donc on a des capacités de réaction et de mobilisation. Et on a à la fois, je dirais aujourd'hui, je pense qu'il faut profiter de toutes les opportunités dont on peut disposer. D'une part, la mobilisation citoyenne telle que ce que nous le vivons, et puis faire savoir que les citoyens sont mobilisés, enquiquiner sans arrêt nos élus, je dirais intervenir auprès des partis politiques, manifester dans les rues. Enfin, je veux dire que il faut être vraiment dans tous les secteurs du combat. Je dirais tous les gens qui peuvent avoir une influence dans ce projet-là, il faut en louper aucun. Il faut écrire à tout le monde, il faut en parler. Mais surtout, ce qu'il faut faire, et je pense que c'est la première des choses, c'est en parler à son voisin, en parler à son ami. En parler, voilà, c'est l'époque, je dirais, où on rentre dans l'époque des apéritifs chez nous. Ben voilà, ouais. On invite son voisin autour d'un verre et on décrypte TAFTA et on explique ce que c'est que TAFTA et on explique surtout pourquoi on ne veut pas qu'on soit au courant. Parce qu'en fait, moi je pense que le premier argument, c'est pourquoi on nous le cache.
Ouais.
Si c'était quelque chose de si bon pour nous, on nous en parlerait, enfin je veux dire, on nous en parlerait, ce serait quelque chose de connu et d'abordable. Or aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un blackout le plus total, si ce n'est le travail de mobilisation comme ce qui est fait aujourd'hui, mais tenir des réunions dans tous les villages. Et surtout, moi je dis, le premier travail, c'est son voisin. Voilà, ouais. On ne devrait pas avoir un voisin qui ne soit pas au courant de ce que c'est TAFTA, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, si on sort dans la rue, on fait un micro-trottoir en l'espace de demi-heure, on va se rendre compte que 90% des gens ne sont pas au courant.
Oui, il y a des chances, ouais, effectivement. Et le calendrier, ce traité TAFTA va être signé, est-ce qu'il y a un calendrier, jusqu'à quand on a pour se battre?
Alors ce qui est difficile, c'est on a un calendrier officiel qui semble dire que jusque 2015-2016, les choses sont encore jouables. Mais le problème, c'est que tant on l'a vu lors du déplacement de notre président aux États-Unis, dans une déclaration, il a dit devant Barack Obama, cette affaire, il faut qu'on en finisse rapidement, parce que si les populations se mobilisent sur ce projet-là, on ne va pas s'en sortir. Donc ils sont prêts à précipiter le mouvement. Donc dire que l'échéance, c'est 2015 ou 2016, objectivement, je pense que il ne faut pas se donner l'objectif, il ne faut pas, surtout pas se dire on a du temps devant nous,
oui.
Il faut se mobiliser immédiatement et passer à l'action immédiatement, il ne faut pas leur laisser le temps.
Bon, moi je crois que déjà on a donné un bon outil, je crois, ce soir,
voilà.
À ce sujet-là.
Voilà.
Merci Christian.
Mais je t'en prie.
David nous a quittés pour rejoindre une réunion, un café repère qui a lieu à Vauvert à 19h30. Hugo nous en parlera d'ailleurs puisqu'il va nous parler des manifestations qu'il y a dans le mois.
Alors, donc bien sûr, donc c'est toujours sur le site Démosphère, voilà. Donc oui, donc justement, à cette même heure et ici
19h30.
À 19h30 à Vauvert, Donc le Café Repère fait un débat justement sur le TAFTA, sur le grand marché transatlantique. Donc
vous attendez la fin de l'émission et vous partez tout de suite à la salle Foukaran.
Voilà, et qui est animé par justement David Autelin qui vient juste de nous quitter pour aller à ce débat. Nous avons le jeudi 15 mai à 19h à Barjac, OGM caché. Le collectif des faucheurs volontaires du Gard propose une soirée information-débat sur les variétés rendues tolérantes aux herbicides. Ça sera bien sûr entrée libre à la salle du cinéma Le Regain, place de l'Esplanade à Barjac. Et puis nous avons le vendredi 16 mai à Mirandol à 20h30 à la maison des associations projection du film de Yanis Yulontas dans les ruines de la Grèce, le berceau d'un autre monde. Le film sera suivi d'un débat avec la participation de Giorgio, libertaire grec, donc aussi bien sûr entrée libre. Et puis enfin, nous avons le 17 mai à 20h30, Stop Gaz de Schiste, signé débat, donc Terre de Schiste, en présence de militants argentins. Donc ça sera le samedi 17 mai à 20h30 au cinéma Les Arcades à Alès. Et puis pour finir, le week-end prochain, le 23, 24 et 25 mai, nous avons le Festival de Vauvert qui aura lieu au Collège de la Vallée Verte, organisé par le Centre Social Rive. Voilà, et puis bien sûr le 25 mai, n'oubliez pas d'aller voter.
Voilà. Très bien. Eh bien, l'émission se termine. Au revoir. On ne lâche rien, au moins jusqu'au mois prochain.
On ne lâche rien.
Au revoir, Christian.
Au revoir.
Voilà, Hugo voulait dire le festival, mais il n'a pas précisé. C'était le festival jeunesse de théâtre amateur de Vauvert. Tiens, mais d'ailleurs, je te propose d'écouter la bande-annonce, Hugo. Tiens.